Au café service, une émission au service des petits enfants. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au café service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
La corruption a été érigée en système dans certaines universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. En effet, des cas de monnayage de points sont fréquents, surtout pendant les examens de première et deuxième session. Une pratique qui contribue à la descente aux enfers du système éducatif congolais. Comment lutter efficacement contre ce phénomène? Vous avez des témoignages, des questions de préoccupation, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est ouvert. Appelez-nous au 081-890-6394 pour participer. Professeur Célestin Dimanja, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes enseignant à l'Université catholique au Congo. Nous parlons du monnayage, de comment lutter contre le monnayage de points dans nos universités. Alors, professeur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces pratiques?
Merci pour la question. Quand il s'agit de lutter contre cette pratique, il me semble qu'il faut d'abord l'avoir vécu. Je ne nie pas l'existence.
Oui.
Mais dans le milieu où moi j'évolue, c'est quelque chose de complètement inconnu. Cela ne m'empêche pas d'apprendre par d'autres voies qu'il y a des pratiques de suivi, de branchement, de fuite de questionnaires qui permettent éventuellement à certains groupes d'étudiants d'avoir de l'avantage sur les autres. C'est une pratique injuste parce que, en principe, l'enseignement est donné pour tout le monde, sur le même pied d'égalité, mais s'il faut passer par le monnayage, ou par la fuite des questionnaires, ou par ce qu'on appelle communément dans les milieux universitaires le suivi, je crois que là on est complètement à côté de la plaque.
Et qu'est-ce que cela veut dire le suivi? C'est-à-dire l'étudiant va voir le professeur pour suivre sa situation?
D'après ce que j'ai appris, ce ne sont pas tellement les professeurs comme tels qui sont mis en cause, mais leurs collaborateurs, ceux qui viennent assurer l'examen en lieu et place du professeur.
Les assistants,
les chefs de travaux. Et dans certains cas, on parle de délégués. Ça, c'est toujours le vocabulaire des étudiants. Le professeur peut envoyer quelqu'un ou des gens se présentent comme ayant été délégués par le professeur. Mais à ma connaissance, on ne m'a jamais cité le nom d'un seul professeur qui lui-même s'adonne à des telles pratiques.
Alors, ces assistants et délégués, ils viennent surveiller les examens et pendant ce temps-là, ils font des arrangements avec les étudiants.
C'est cela. Ils se présentent comme ayant été délégués, envoyés par le professeur, en disant, bon, si vous voulez avoir telle cote ou telle mention, il suffit de vous plier à la pratique. Donc, payer un montant. Et parfois, on parle aussi des étudiants qui perdent des cotes. Ils participent aux examens, mais à la fin, après la correction, ils ont des branches dans lesquelles ils n'ont strictement rien. Et devant de tels cas, parfois, les gens mal intentionnés viennent vous dire, il faut donner quelque chose pour que nous puissions sauver votre situation.
Alors, professeur, dans ce cas-là, on peut dire que ces cotes ne sont pas réellement perdues. On les a cassées un moment pour se tirer de l'argent aux étudiants.
Là, je ne saurais pas le dire. Mais le problème, c'est un problème d'organisation. À l'Université catholique du Congo, par exemple, à chaque fois que l'examen se pose, il y a une liste où les étudiants cochent leur nom, signent au su et au vu de tout le monde. Donc, quand on a cet élément-là, il est difficile de pouvoir dire après que la feuille de l'étudiant a disparu. Donc, c'est une question d'organisation. Ça dépend de la vigilance des autorités académiques, au niveau de la faculté, au niveau du département, au niveau des professeurs eux-mêmes.
Voilà. Des questions de préoccupation, des témoignages, vous composez le 081-890-6394. Vous avez parlé, professeur, du phénomène suivi et branchement. C'est la même chose ou bien il y a une différence?
À mon avis, c'est la même chose. D'après les explications que je reçois, parce que je vous ai dit dès le départ que je n'ai jamais vécu ça.
Oui.
Mais pour, dans les milieux des étudiants, le suivi...
Et le branchement.
Et le branchement. Le branchement, c'est se mettre en contact avec précisément le délégué ou celui qui prétend être un tel, hein, pour obéir et pratiquer ce qu'il vous demande. Là, vous vous branchez.
Alors, vous vous branchez en donnant un peu d'argent. Généralement, c'est combien ? $20, $50 Vous avez une idée, professeur ?
Moi, je ne saurais pas vous donner le montant. Ça, il semble que ça dépend d'une faculté à l'autre, d'un département à l'autre.
Oui.
Mais il y en a qui, effectivement, demandent une certaine caution financière, d'après le récit que j'entends de la part des étudiants, notamment des universités de Kinshasa.
Alors, ils font, ces délégués le font en complicité avec le professeur titulaire du cours ou c'est à son insu?
Comment le savoir? C'est très difficile. Parce que ce n'est pas le professeur lui-même qui se présente. Le délégué vient vous dire, je viens de la part de tel professeur, si vous voulez arranger votre situation, voici ce qu'il faut faire. Et il semble que les montants varient d'un délégué à un autre, et on ne sait pas si cet argent parvient effectivement au titulaire du cours ou pas.
Voilà. Vous avez des questions, des préoccupations, composées du 081-890-63-4. D'après certaines informations, professeur, les chefs, les CP, les chefs de promotion sont, ils servent souvent des ponts entre les étudiants et ces délégués qui sont à la recherche d'argent.
D'après le statut de l'université, les CP sont effectivement des intermédiaires entre la faculté et la masse des étudiants de telle ou telle promotion. Mais il n'est pas dit que leur rôle, c'est de récolter de l'argent. À l'UCC, nous avons des CP à chaque promotion, et ces CP, ce sont eux qui tiennent les listes de registre de présence des professeurs.
Mmh.
À chaque fois que vous terminez un cours, il faut signer, et c'est le CP qui remet le registre à la faculté. Et c'est sur base de ce registre que l'on peut vérifier l'avancement ou non de telle ou telle branche. Donc, leur rôle, dans ce cas-là, ça se comprend. Il peut y avoir des problèmes. Par exemple, le règlement de l'université laisse la liberté aux étudiants de choisir la modalité d'examen. L'examen doit-il se faire à l'oral ou à l'écrit? Normalement, quand les étudiants se mettent d'accord, c'est le CP qui vient informer le professeur, qui informe la faculté sur la modalité de l'examen. Ça, c'est ce que je vis.
Bien.
Mais en matière en matière financière, je n'ai pas encore vécu le cas.
Nous invitons tous les camarades étudiants à l'UNIKIN, ISCUPN, UNIKIS, UNIU. Vous nous écoutez en ce moment. Composez le 081-893-94 pour participer. Nous avons déjà un auditeur qui nous appelle des Kananga. Mavé, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour, monsieur. Je suis pas sous les émissions à travers les intérêts de la
police. On vous écoute.
Merci, Jean-Pierre. Avant de procéder à poser quelques questions à notre invité, je voudrais signaler, comme on l'a dit, il n'y a pas 24 ans de questions. Dans son milieu universitaire, nous n'avons pas. Nous avons quelques enseignants qui ne sont pas vraiment.
Mavé,
oui,
vous êtes à côté d'une radio à Lyon ou pas?
Non.
Alors, alors veuillez peut-être vous déplacer un tout petit peu, ça fait un éloi la qualité.
Je vais laisser tout de suite.
Ouais, là, on...
Ça va?
Bah, un tout petit peu, allez-y quand même.
D'accord, merci. Je veux dire que en gros, il y a beaucoup de gens qui m'ont les pensionnés. Il y en a d'autres, un petit nombre, qui n'ont pas cette acte là de concevoir des corrections dans leur intention. Mais moi, je voudrais vous signaler que c'est trop difficile. Vous comptez la confiance dans notre pays à faire un niveau très adhéré, un niveau plus
Désolé, on ne peut pas continuer. On n'arrive pas très très bien à vous saisir. Vous dites qu'on a tout ce qu'on a retenu. Il y a certains enseignants qui sont mal intentionnés et qui peut-être organisent le monnayage de points dans nos universités et instituts supérieurs. Voilà. Donc, professeur Célestin, alors, comment lutter contre, efficacement contre cette pratique, le monnayage de points?
Je crois que la solution fondamentale, structurelle, c'est d'améliorer les conditions de vie des enseignants et même de leurs assistants et de leurs chefs de travaux. Parce que quand on gagne honnêtement sa vie, croyez-moi, il est difficile de chercher à compléter ses revenus par des voies détournées. Donc, de ce côté-là, je crois que le pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur devrait continuer, parce que ça a commencé, continuer à améliorer le social, le salaire des enseignants. Je crois qu'à cette allure-là, ces pratiques appartiendront définitivement au passé.
Ami, si nous appelle de Kindu, dans la province du Maniema, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama. Bonjour à notre invité et à tous les auditeurs qui nous suivent à partir de Kindu.
On vous écoute, Amici.
Oui, je remercie d'abord l'équipe d'Okapi Service d'avoir songé à organiser cette émission et traiter ce thème très important. Parce que moi-même, je suis étudiant à l'université de Kindu à la faculté des droits.
Oui.
Et c'est une situation que nous vivons. Et nous déplorons et on ne trouve pas une solution jusque-là.
Namisi, comment ça se passe exactement dans l'université de Kindu, le monnayage de points?
Bon, ici chez nous, c'est plus une assistants qui pratiquent ce système.
Qu'est-ce qu'ils font exactement?
Nous accueillons moins de professeurs ici à l'université de Kindu.
Oui.
C'est plus une assistants qui pratiquent ce système-là.
Qu'est-ce qu'ils font généralement?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font généralement, ces assistants?
Bon, quand il y a un examen, une interrogation, à la fin, si vous avez 10 dollars, 5 dollars, vous passez le soir voir l'assistant. Sinon, vous passez à la deuxième session. S'il n'y a pas l'argent, vous passez à la deuxième session.
Mmh.
Et puis, là, vous parlez souvent de l'université. Mais cela, ça commence depuis l'école secondaire, depuis les humanités. On était en 5e, 6e, nous vivons cela.
Mmh.
Je ne suis pas l'invité à chaque séjour à l'université, mais il doit descendre jusqu'aux écoles de l'humanité, parce que c'est une pratique qui a trouvé de la naissance là-bas. Et puis, je voulais dire à l'invité, ceci n'est pas de qui, d'autant plus que les enseignants, les assistants, les professeurs n'ont pas une morale éduquée. Ils ont une morale, une éducation connue par la Bible.
C'est bien. Merci, Amici. Célestin Dumanja.
Merci bien, Jody. Il faut effectivement que les enseignants, c'est-à-dire les professeurs et les assistants, les chefs de travaux, fassent montre de beaucoup de valeurs morales. Hein.
Mm-hmm.
Pas dire simplement la Bible parce que tout le monde n'est pas chrétien. Moi, je le suis. Mais les valeurs morales comptent. Dans un cours que je donnais au niveau du premier graduat à l'université catholique, sur la méthode d'études, j'avais consacré un chapitre à l'intériorisation des valeurs. Effectivement, quand on fait des études sans viser un certain nombre de valeurs concrètes, que l'on soit étudiant, que l'on soit enseignant, on peut glisser facilement. Donc, la probité morale est une valeur qu'il faut mettre en avant, quelle que soit la situation.
Alors, si cette probité morale s'est effritée au fil des années, alors comment la restaurer?
Il suffit de la remettre dans le règlement, dans la déontologie, dans la manière d'enseigner, dans la manière de poser les examens. Vous savez, hein, nous avons entre autres obligations quand on est enseignant, d'indiquer aux étudiants à l'avance la méthode d'évaluation. C'est une obligation. Il faut que cela soit fait explicitement, au su et au vu de tout le monde, de telle sorte que les deux parties, la partie enseignante et la partie qui reçoit l'enseignement, puissent savoir à quoi s'en tenir. Et cela doit être conforté par le règlement de chaque établissement. Sans quoi, on n'a pas de base sur lesquelles, sur base des éléments sur base desquels sanctionner un professeur ou un enseignant. La sanction est importante. La sanction positive ou négative, hein, ça s'entend. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit portée à la connaissance de tout le monde.
Bien, Paul nous appelle des Kananga. Bonjour. Paul, bonjour.
Bonjour, M. Jolie.
On vous écoute.
Bonjour aussi, Alain Vipère. Je voulais dire ceci, monsieur. Par rapport au thème du jour, je me rends compte que ce phénomène de franchissement ou suivi, c'est pas seulement un phénomène qui concerne le niveau universitaire, mais c'est un phénomène qui gangrène en fait toute la société congolaise. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je voulais aussi dire que par rapport à la légèreté du niveau des étudiants comme enseignants au Congo, du fait que, comment vous imaginez, monsieur le journaliste, un professeur ou un assistant à l'université qui va envoyer des gens pour qu'on lui récolte de l'argent. D'un côté, je comprends que parce qu'il n'est pas bien payé, mais d'un autre côté, c'est immoral. Alors, je conseillerais vraiment à l'autorité congolaise de bien payer ses enseignants, sauf qu'il n'y ait pas de répercussions sur les étudiants que nous sommes. Je vous remercie.
Merci, Paul Bekamenga, professeur Célestin.
Sur ce point, on est je suis d'accord avec lui. Je parlais tout à l'heure du social des enseignants. Il revient au pouvoir organisateur de mettre les enseignants dans des conditions telles que ces différentes tentations puissent être évitées. Parce que quand on ne sait pas comment on va finir sa journée, comment on va nourrir sa famille, comment faire face à des obligations sociales, parfois c'est difficile que la morale résiste. Je ne dis pas que je cautionne cela. Mais je lis les phénomènes tels qu'ils se produisent dans la société.
Voilà, et un auditeur.
C'est un problème de la société congolaise.
Voilà, un auditeur nous a révélé que cette corruption n'est pas seulement dans les universités, même à l'école primaire. Il y a des ramifications même au niveau de l'école primaire, des écoles primaires.
Bah, je ne partage pas tellement cet avis, parce que nous savons, au niveau de la pédagogie, que les enfants ont encore toutes leurs potentialités. Ils ne sont pas placés devant des menaces telles que ils puissent dire « bon, si je ne réussis pas, je rate ma vie, je fais ceci ». Et je ne crois pas qu'il y ait des parents qui soient prêts à donner de l'argent pour qu'on facilite la vie à des tout petits qui ont encore toutes leurs capacités.
Mais au niveau du secondaire, par exemple, il semble qu'il y a certains parents qui vont voir les professeurs, et ils donnent un peu d'argent pour que l'enfant passe les classes coûte que coûte.
Ah, ça c'est une mauvaise attitude. Parce qu'en passant des classes, au moment où on n'a pas les capacités nécessaires, cela va se révéler tôt ou tard. Et si l'on parle de déchets, au niveau de classe supérieure, ça vient précisément de se laisser faire. Donc, je crois que c'est une prise de conscience qui s'adresse à tout le monde, quel que soit le niveau de l'enseignement. Je voulais ajouter que, au niveau du secondaire, il y a un enjeu très très compliqué qui s'est ajouté à la formation du secondaire, c'est ce que nous appelons l'examen d'État. Et autour de l'examen d'État, effectivement, on a déjà noté des tentatives de tricherie qui peuvent...
Des fuites de questionnaires.
Des fuites de questionnaires,
oui.
Des tricheries organisées.
Le branchement.
Par les surveillants,
oui.
Ou par les chefs de centre.
Oui.
Ça, ce sont des phénomènes connus. Mais je sais, pour avoir travaillé longtemps à l'EPSP, que l'inspection de l'enseignement primaire et secondaire est sévère à l'encontre de ces gens-là.
Bien. Comment lutter contre le monnayage de points dans les universités? Vous avez des questions, des préoccupations, composez le 081 890 63 94.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Roger nous appelle de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à moi, c'est l'été de la radio.
On vous écoute, Roger.
Oui, je voulais mettre mon cas au cours de notre invité du jour.
Oui.
Bon, parce que moi, personnellement, je suis étudiant, et je trouve des difficultés peut-être dans les auditions que nous évoluons. Les difficultés proviennent de nos CP. La fille, le CP est l'intermédiaire entre la société et les étudiants.
Oui.
Donc, notre porte-parole. Et dans les cas où le CP peut-être vient avec une mission de chez un assistant, en disant peut-être que non, cet assistant a besoin d'autant de candidats qui peuvent posséder autant d'argent à ceux qui veulent quand même des postes favorables. Et peut-être qu'il y a un d'entre les étudiants qui va commencer à se révéler peut-être, qui dit non, moi, avec ma propre intelligence, je vais réussir sans autant contacter cet assistant.
Oui.
Et lorsque le CP va rentrer chez l'assistant, il va aller le dire de n'importe quoi. Donc, interpréter ce que l'étudiant n'a pas dit.
Mmh.
Et comme les assistants sont souvent, ils s'énervent souvent sans pourtant demander le motif sur lequel l'étudiant peut être porté, déclarer des propositions. Bon, ils veulent agir. Et directement, tout ce qu'ils font, on verrait que ça ne va pas aller de l'avant. L'assistant va garder un temps contre ces derniers. Mais pourquoi? Qu'est-ce que notre invité peut nous dire entre les CP et les étudiants? Cette histoire interprétée nécessairement, c'est que les étudiants disent il va interpréter ce que l'assistant dit pour la tête des aînés entre les étudiants et les assistants.
Merci. Merci Roger de Kananga. Akilimani, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi c'est Akilimani qui parle de Kindu. Je profite d'avoir l'occasion de saluer mon préfet de l'Institut de l'Institut d'Avernance. Ok.
Bon, ne saluez pas encore le préfet, Akilimani. Allez-y, vous, quelle est la question?
Merci. Ma question sera basée sur l'école secondaire, parce que je suis encore à l'école secondaire. Disons, par exemple, nous sommes à la période du examen et j'avais payé tous les frais possibles de l'école. Maintenant, à la fin de l'examen, j'ai choisi tel cours pour le manque de difficultés pour étudier. Est-ce que ce n'est pas de l'argent pour aller donner au professeur pour qu'il puisse me donner des points, ça m'a question à l'université. Et en plus,
vous
peut être seulement capable de demander de l'argent aux élèves parce que notre pays est mal organisé. Donc, par exemple, ils n'ont pas les moyens pour manger, pour faire manger leurs enfants. Mais ils vont faire. Il faut seulement demander 10 francs, 500 francs aux élèves. Parce que le travail de l'homme, je ne sais pas l'homme, mais celui qui travaille, tout le monde a la chaire de tout. Ok.
Merci à tout le monde. Professeur Célestin, vous avez suivi Roger de Kananga qui nous révèle que certains assistants mènent la vie dure aux étudiants qui refusent de coopérer, qui refusent de donner de l'argent parce qu'ils comptent sur leur propre intelligence.
Oui, cela peut arriver. De nouveau, je ne cautionne pas. Mais ce que j'aurais voulu dire à notre ami de Kananga, c'est que il y a un problème dans la conception même du CP. Mais le CP, par définition, c'est le porte-parole des étudiants. Il n'a pas à venir représenter un professeur ou un assistant dans l'auditoire. Hein, c'est juste un interlocuteur. Bon, je sais qu'avec la corruption générale de notre société, un certain nombre de fonctions pareilles ne sont plus respectées. Mais je crois que si les étudiants se solidarisent et qu'ils disent à leur CP, ton travail est bien défini dans le règlement de l'établissement, en tel ou tel terme, nous ne t'autorisons pas à venir solliciter de l'argent. Hein. Mais ils peuvent résister, ils peuvent créer de la résistance, et en ce moment-là, c'est toute la promotion qui se met ensemble, qui réagit comme un seul homme. Et en ce moment-là, quelle que soit la méchanceté de l'assistant ou du professeur, il ne va pas, comment disons-nous chez nous, d'user l'ensemble de la promotion sans raison. En ce moment-là, les responsables académiques peuvent l'interpeller. Et je crois qu'il faut insister sur les responsabilités de nos autorités académiques. Parfois, il n'y a pas de suivi. Mais alors, dans le bon sens du terme, hein, voir si les cours se donnent bien, quel est le comportement de l'enseignant vis-à-vis des étudiants. Et les étudiants doivent avoir l'occasion de pouvoir émettre des jugements sur leurs enseignants. Cela se fait partout à travers le monde maintenant, et même ici à Kinshasa. Chaque année, au deuxième semestre ou entre les deux semestres, il y a une session d'évaluation des enseignants. C'est en ce moment-là que tout se révèle. Et si cela se révèle, si on dénonce une telle situation publiquement, ça va s'estomper. C'est sûr.
Oui. Alors, il y a Akilmani, un élève de Kindu, qui demande, il a payé les frais d'études à l'école et vers la fin de l'année, il se rend compte qu'il est sur le point d'échouer. Alors, ne peut-il pas payer un peu d'argent pour réussir?
Non. C'est là que nous glissons tous très facilement.
Oui.
Vous savez, hein, même pour les examens, nous conseillons à l'université de préférer de passer un examen honnête, plutôt que de s'adonner à la tricherie. Il faut préférer un travail honnête et calme, hein, plutôt que de chercher des arrangements. Puisque, à force de chercher des arrangements, ce sont les mêmes qui plus tard vont dire les autorités sont de corrupteurs, ils sont corrompus. Mais entre-temps, lui-même, il y a déjà participé.
C'est
une anti-valeur.
Oui, c'est une anti-valeur. Alors professeur, dans nos universités, il y a des enseignants, des professeurs qui vendent les TP, ou les papiers d'examen. $10, avant de passer votre TP, vous payez, on vous remet le document.
Ce n'est pas autorisé. Il n'y a aucun texte officiel qui autorise ça. Là, j'en parle vraiment d'autorité, parce que j'ai fait quelques publications là-dessus. Il n'y a rien qui autorise un professeur à vendre le TP. Vous savez comment cela arrive? Ça revient surtout du fait que dans nos établissements, il n'y a pas de frais de fonctionnement. On n'a pas de papier, et parfois il n'y a même pas d'ordinateur, il n'y a pas d'imprimante. Alors on prend prétexte de tous ces manquements-là pour dire il faut que le papier soit trouvé, il faut que je rentre dans mes frères, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est vraiment aller à l'encontre de l'esprit d'un établissement universitaire.
Mmh.
Où, de nouveau, l'accent à mettre sur la responsabilité du pouvoir organisateur. Il ne suffit pas d'améliorer le salaire des enseignants, il faut améliorer leurs conditions de travail. Et les conditions de travail, dans ces conditions, participent ce que nous pouvons appeler les frais de fonctionnement.
Bien, merci professeur Sébastien Nimanja. Rappelons que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci beaucoup.